Salut, c'est le Kurt post-montage qui vous parle. Je voulais tout d'abord vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode, qui m'a beaucoup touché. L'épisode a plutôt bien marché et les retours sont très positifs. Et c'est cool parce que pour quelqu'un comme moi qui souffre du syndrome de l'imposteur, ça m'a fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Je profite aussi de cette toute petite intro avant l'épisode, avant que vous puissiez kiffer, juste pour vous dire que vous pouvez me trouver sur Twitter, sur Threads, sur Instagram et sur Twitch aussi, où je m'amuse à streamer un petit peu, notamment des trucs qui font peur. Et du coup, vous pouvez retrouver le lien de tous mes réseaux sociaux dans la description de ce podcast. Voilà, je vais pas vous tenir la jambe beaucoup plus longtemps, juste pour finir. N'hésitez pas, si vraiment le podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager, en parler autour de vous, à le noter et à me faire des retours sur mes différents réseaux sociaux ou sur le système de commentaires ou de notations que vous utilisez sur vos différentes plateformes de podcast. En tout cas, merci encore. Désolé pour cette voix, je suis archi malade. Donc j'espère que ça sera pas trop désagréable à écouter. Et maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne flip, salut. En juin 1912, à Villisca, dans l'Iowa, un fait divers atroce secoue l'opinion publique et détourne même l'attention des médias locaux qui n'avaient jusqu'alors d'yeux que pour le drame du Titanic. Entre le naufrage du navire le plus cher du monde et l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, le 5 avril 1917, une seule question obsède l'Amérique. Qui a tué la famille Moore dans la nuit du 10 juin 1912 ? Fondée en 1858 par des colons américains sur des terres appartenant à la tribu des natifs américains Iowa, Villisca est une petite ville sans importance qui ne comporte que quelques petites cabanes jusqu'à ce qu'en 1868, la Chicago Burlington and Quincy Railroad, une compagnie ferroviaire pionnière, y installe une gare. La ville se développe alors et en 1912, Villisca est une des villes les plus importantes du comté de Montgomery. La commune, de 2000 habitants, est décrite par l'Atlas du tourisme de l'Iowa comme l'une des plus belles villes de l'État. Elle est alors en pleine croissance. Bien fournie en électricité et en eau potable, la ville est pressentie à l'époque du drame pour devenir la capitale du comté de Montgomery. Villisca vit principalement de son agriculture à l'époque, mais déjà son administration incite les grandes entreprises de l'État à venir s'installer sur ses terres agricoles, anticipant les grandes transformations industrielles à venir. Villisca est aussi la seule ville de l'État à posséder un arsenal et des casernes financées par l'Iowa, et elle jouera un grand rôle lors de la Première Guerre mondiale qui s'annonce, notamment en mettant à disposition de l'armée ses casernes, mais aussi en envoyant un grand nombre de ses enfants se faire tuer en Europe. Aujourd'hui, la ville a perdu un grand nombre de ses habitants et ne survit dans la mémoire qu'à cause du drame qui a secoué la ville le 10 juin 1912. La principale source de revenus de la ville est le tourisme. Mais si Villisca est encore une jolie petite commune, agréablement nichée entre les deux bras de la rivière Nodaway, ce n'est pas pour son architecture ou pour ses chemins de randonnée que les touristes viennent. Sur TripAdvisor, la seule activité proposée par la ville est la visite d'une maison. Située au 508 E Second Street, cette bâtisse parfaitement banale d'apparence trône au milieu d'un grand terrain dégagé et reçoit la visite de tous les amateurs de paranormal de la région et même du pays. Si ce n'est l'énorme panneau qui annonce la Villisca Axe Murder House, rien ne distingue l'habitation des autres maisons du quartier. Face à un petit parking susceptible d'accueillir 5 voitures, se trouve une maison américaine typique de l'architecture coloniale. Structure en L, façade en bois blanc, lucarne de grenier en demi-cercle, semblable à celle d'Amityville, et cave accessible par une petite trappe attenante à la maison. On accède à l'intérieur par une galerie couverte typique de l'époque. Le visiteur ouvre la moustiquaire, pousse la porte et se retrouve dans une maison décorée et meublée comme en 1910. Aucun des meubles n'est d'origine, mais la reconstitution marche et le visiteur a réellement l'impression de voyager dans le temps. L'entrée donne directement sur la cuisine sommairement meublée. Immédiatement à gauche, un petit salon avec dans son prolongement la première chambre de la maison, la chambre bleue. À gauche, en retournant dans la cuisine, des escaliers mènent directement à la chambre parentale sous les combles qui dessert à son tour une petite chambre d'enfant ainsi qu'un modeste grenier. La maison est classée au patrimoine historique de l'Iowa et en journée, si ce n'est l'histoire des lieux, rien ne paraît susceptible d'effrayer les visiteurs. C'est la nuit que tout se déroule ici. Pour 428$ la nuitée, Martha Lynn, la propriétaire des lieux, vous donne les clés de la demeure et vous laisse livrer à vous-même, non sans vous avoir laissé deux consignes. La première, interdiction de dormir dans les lits, et la deuxième, interdiction de partir avec le moindre objet appartenant à la maison. Pour le reste, faites ce que vous voulez et bon courage. La maison est réputée comme étant l'une des plus hantées des États-Unis depuis qu'en 1912, une famille entière y ait été assassinée à l'aide d'une hache pendant leur sommeil. L'histoire contemporaine de cette maison commence réellement dans les années 90. La bâtisse, à moitié délabrée, est abandonnée depuis de nombreuses années. Elle est complètement inhabitable. Ainsi, le conseil de la ville propose sa destruction. Mais en février 1994, le couple Lynn, qui est attaché à l'histoire de la ville, la rachète pour la sauver des machines de chantier. Le couple possède déjà le seul musée de Vidiska, le musée Olson Lynn, consacré aux vieilles automobiles. La maison des Moore est en piteux état, mais Darwin Lynn consacre une grande partie de ses économies et de son temps à la réhabilitation de l'édifice. Il y installe l'eau, l'électricité, refait les peintures, la façade, et rapidement, la maison devient une annexe du musée. Des amateurs de paranormal qui ont eu vent de l'opération affluent vers Vidiska et pressent Darwin Lynn de les laisser enquêter de nuit dans son nouveau musée. Darwin, qui n'y comprend rien et qui ne croit pas au paranormal, cède à la volonté de ses visiteurs et rapidement, grâce au concours d'émissions de télé racoleuses notamment, la maison se mue en l'une des maisons hantées les plus lucratives du pays. C'est en effet dans cette période, au début des années 2000, que les chaînes du satellite américain voient apparaître le format des chasseurs de fantômes. Et la maison de Vidiska connaît un grand succès. Les témoignages d'apparitions et de phénomènes se multiplient. Au cours d'une interview pour le reportage Vidiska A Town Divided, Christy Primer, qui est l'une des premières guides de la maison hantée de Vidiska, raconte qu'en compagnie de Martha Lynn, et alors qu'elle venait juste de rentrer dans la maison, les bras chargés de produits et d'ustensiles de ménage, un fer à repasser en acier qui pèserait plus d'un kilo a bondi de l'étagère où il était rangé pour tomber à leurs pieds. Plus tard, en 2009, une vedette d'une émission de chasseurs de fantômes vient voir la maison pour tenter de rentrer en contact avec l'esprit des deux petites victimes dans la chambre où elles ont perdu la vie. Le chasseur aurait demandé aux deux fillettes de se manifester en allumant et en éteignant sa lampe de poche, ce qu'elles auraient apparemment fait à chaque demande. Il sort de la maison au petit matin, convaincu que les huit victimes du meurtre à la hache sont toujours là. Toujours dans le reportage Vidiska A Town Divided, John Hauser, l'un des derniers gardiens en date de la maison, raconte qu'un jour, après avoir fermé la porte d'entrée derrière lui, il est monté à l'étage pour faire un peu de rangement lorsqu'il a entendu quelqu'un entrer dans la maison. Pensant avoir affaire à un farceur, il se cache alors dans l'un des placards du premier étage et attend que le visiteur monte à son tour. Il attend dans le noir depuis quelques instants lorsqu'il entend des pas dans les escaliers. pas qui finissent par rejoindre le palier où il est caché. Il se jette hors de sa cachette en hurlant pour effrayer son visiteur. Mais il est seul dans la chambre. Le cœur battant, il fouille l'entièreté de la maison sans ne trouver personne. Au rez-de-chaussée, la porte qu'il a empruntée est toujours fermée à clé. Évidemment, s'agissant des guides et propriétaires de la maison, on songe toujours à l'éventualité que leurs témoignages ne servent qu'à maintenir l'intérêt des amateurs de paranormal. Ce ne serait pas la première attraction hantée des États-Unis à user d'artifices pour attirer les clients. Cela dit, un phénomène va survenir le 7 novembre 2014 qui va définitivement faire entrer la Axe Murder House dans l'imaginaire collectif. Un jeune chasseur de fantômes, Robert Lawson Jr., se présente le vendredi 7 au soir accompagné de ses parents. La maison a été louée dans les règles et rien de particulier dans le groupe n'interpelle le guide John Hauser, si ce n'est l'énorme couteau de chasse que Robert arbore à la ceinture. On est aux États-Unis et le port ostensible d'un couteau n'a apparemment rien d'illégal en Iowa puisque John ne s'inquiète pas plus que ça et laisse la famille entrer dans la maison après avoir délivré ses consignes. La soirée se passe dans un calme absolu lorsque les parents de Robert, qui sont en train d'inspecter l'extérieur de la maison à la recherche d'orbes lumineuses, entendent leur fils hurler de douleur. Leurs talkies chointent un instant, puis ils entendent leur fils les appeler à l'aide. Ils retournent à la maison et, attirés par les lamentations de Robert, arrivent dans la chambre du rez-de-chaussée. Il est affalé dans une mare de sang, son couteau planté en plein milieu de la poitrine. Les parents appellent le 911 et effectuent les premiers soins en attendant que les secours arrivent. Robert est évacué en hélicoptère et est transporté au centre médical de l'université Creighton pour y subir une intervention. Il n'a pas été en mesure de parler avant son opération et s'il survit à ses blessures, il se réveille de son anesthésie sans aucun souvenir des événements. Son seul souvenir de la soirée remonte à quelques instants avant l'incident. Il se souvient être entré dans la chambre d'amis avec l'intention de provoquer l'esprit qui hante la maison. Puis, c'est le trou noir et Robert se réveille au bloc opératoire. La police du comté conclut à une automutilation et d'un point de vue strictement judiciaire, l'affaire s'arrête là. Mais dans le petit monde de l'enquête paranormale, ce fait divers donne à la maison de Villisca un prestige encore plus étincelant. Les chasseurs de fantômes sont formels. Robert a été attaqué par le tueur de la famille Moore. Au registre des preuves entre guillemets irréfutables, les enquêteurs s'aperçoivent que l'heure de l'agression coïncide avec celle des meurtres de la famille Moore. La réputation de la Villisca Axe Murder House est définitivement faite. J'aime bien cette histoire de hantise qui me fait beaucoup penser à celle d'Amityville et à vrai dire, j'ai commencé l'écriture de cet épisode convaincu de tenir une bonne histoire paranormale, rapide à raconter et efficace. Sauf qu'au fil de mes recherches, je me suis surpris à m'intéresser plus particulièrement au meurtre survenu en 1912 plutôt qu'au folklore qui se transmet autour de la maison. Croyez-moi, les lampes qui s'allument seules et les EVP d'enfants qui pleurent ne font pas le poids face au mystère qui entoure les événements de 1912. Commençons par vous parler de la famille Moore. Le patriarche, Josiah Moore, a 42 ans au moment des meurtres. C'est un entrepreneur qui réussit bien à Villisca. Il possède une des deux quincailleries de la ville et sa famille est connue de tous, notamment grâce à la réussite du patriarche. Son épouse, Sarah Moore, a 39 ans quant à elle. C'est une femme au foyer qui élève ses 4 enfants, entretient la maison et s'occupe des animaux de ferme que possède la famille. Elle et son époux sont deux fervents adeptes de l'église presbytérienne du quartier et Sarah s'investit beaucoup dans la vie religieuse de sa ville. Ensuite viennent les 4 enfants Moore, Herman, 11 ans, Catherine, 10 ans, Boyd, 7 ans et enfin Paul, 5 ans. La famille s'est installée au 508 E Second Street en 1903, dans cette charmante maison construite en 1868. La famille est en apparence sans histoire, tous ses membres sont bien intégrés socialement et on ne connaît quasiment pas d'ennemis aux Moore. Très tôt, le 10 juin 1917, Mary Peckham, la voisine des Moore, se lève pour étendre du linge. Il est 5h du matin et elle s'étonne du fait que chez les Moore, personne ne soit encore réveillé. C'est contraire à leurs habitudes, mais la veille au soir, ils ont participé à une fête en ville et elle suppose donc que la famille s'accorde une grasse matinée. Elle va alors à ses occupations, sans trop se préoccuper de ses voisins. Il est 7 heures lorsqu'elle commence réellement à s'inquiéter. Les mots ont des animaux qui ont besoin de soins quotidiens et à cette heure-ci, ils devraient être debout depuis longtemps pour s'occuper d'eux. Les chevaux hennissent dans leur grange, livrés à eux-mêmes. Les poules sont encore dans leur poulailler et alors que d'habitude les enfants mours sont déjà dehors à courir et à crier, la maison reste silencieuse. Alors Marie libère des poules pour qu'elles puissent manger et va frapper à la porte de ses voisins sans résultat. Elle tente alors d'ouvrir la porte qui est verrouillée, ce qui, là aussi, est contraire aux habitudes de la famille. Dans une petite ville où tout le monde se connaît, et dans un quartier calme comme celui des Mours, personne ne verrouille jamais sa porte. Marie, angoissée, appelle Ross Moore, le frère de Josiah qui possède une pharmacie en ville, pour le prévenir que quelque chose ne va pas. Il est 8 heures lorsque Ross arrive. Après avoir fait le tour de la maison et s'être aperçu que toutes les fenêtres étaient calfeutrées, il déverrouille la porte avec le double qu'il possède et rentre chez les Moore. La maison est étrangement calme et la cuisine semble ordonnée. Ross, qui commence à angoisser, se dirige instinctivement vers la chambre bleue du rez-de-chaussée où il découvre une scène de carnage. Sur le lit, des draps ensanglantés recouvrent un ou deux petits corps qu'il ne parvient pas à identifier. La tête des victimes est couverte par du linge imbibé de sang qui a aussi éclaboussé la tête de lit. Confronté à cette scène d'horreur, il panique et sort de la maison en courant sans prendre la peine de vérifier les autres pièces. Il interpelle un employé de la quincaillerie qui fait face à la maison et qui appartient aux Moore et lui demande d'aller voir si les deux cadavres du rez-de-chaussée sont les seules victimes de la maison. Tandis que l'employé, Ed, rentre dans la maison, Ross demande à son voisin d'appeler le marshal de Villisca, un certain Henry Hank Horton. Quelques minutes s'écoulent dans un silence absolu, puis Ed ressort de la maison en courant et prévient Ross que tous les lits de la maison contiennent des cadavres. Il évoque aussi une hache, partiellement nettoyée et enroulée dans un torchon, qui se trouve près du lit du rez-de-chaussée et qui a pu servir d'arme du crime. Henry Hank Horton, le marshal, arrive sur les lieux à 8h30 et inspecte la maison, laissant Ross sur le perron. Dans la cuisine, Hank inspecte la table et trouve les restes d'un repas ainsi qu'une casserole remplie d'eau et de sang. Les miroirs et les fenêtres de la maison ont tous été recouverts par du linge et des vêtements appartenant aux Moore que le tueur a trouvé dans les tiroirs d'une commode se trouvant dans la chambre bleue. Dans cette chambre d'amis, une lampe à pétrole posée au sol éclaire encore faiblement la pièce. C'est comme ça que le marshal aperçoit la hache qui a visiblement servi au crime. Elle est, comme l'a décrit Ed, en partie nettoyée et enroulée dans un torchon, mais porte encore des traces de sang et de cheveux. Au sol, à côté de la hache, un morceau de bacon de 2 livres est retrouvé, lui aussi enroulé dans un torchon. Dans un coin de la chambre, négligemment déposé sur une chaise, il trouve des vêtements d'enfant qu'il soulève. Dessous se trouvent 2 bibles qu'il ouvre et qu'il consulte. Chacune des bibles porte le nom de sa propriétaire et Hank découvre que les corps de la chambre bleue n'appartiennent pas à des Moore. Il s'agit en fait des deux petites Stillinger, Lina et Anna, deux gamines d'une ville voisine qui sont très amies avec les enfants Moore et qu'une coïncidence horrible a mis sur le chemin du tueur de Villisca. La chaleur est accablante dans la maison. Hank essaie d'ouvrir une des fenêtres du domicile, mais s'aperçoit qu'elle est verrouillée, comme toutes les autres. Il retourne au salon et constate que toutes les fenêtres sont calfeutrées à l'aide de vêtements, sauf celle équipée de stores qu'on a tout simplement baissée. L'un des stores porte des empreintes de sang et une odeur de brûlé flotte dans la maison. En jetant un œil dans le four du foyer, il retrouve des morceaux de papier carbonisé et suppose qu'il s'agit de courrier administratif. Dans la chambre des parents, l'un des plafonds mansardés sur le côté du lit est abîmé, probablement à cause de la hache qui a servi à tuer la famille. Les enquêteurs retrouveront de la poussière de plâtre sur le lit des victimes. Au pied du lit, l'une des chaussures de Sarah J, renversée et remplie de sang. Les parents ont été frappés au visage à au moins 20 ou 30 reprises et au pied du lit, ils découvrent aussi une lampe à pétrole qui est éteinte celle-ci. Hank achève son inspection par la chambre des enfants et découvre que les quatre petits sont morts dans les mêmes circonstances, les crânes détruits à coups de hache et les corps et les têtes recouverts par des vêtements ou des draps trouvés sur place. C'en est trop pour le marshal qui sort de la maison visiblement secoué. Il demande à Ross d'empêcher les badauds d'entrer dans la maison et part chercher le médecin légiste du coin, le docteur J. Clark Cooper. Le marshal, bien qu'expérimenté quand il s'agit de maintenir la paix dans la ville de Villisca, n'a aucune expérience dans le domaine de l'homicide et sur la route, il commet l'erreur de dire aux gens qu'il croise et qu'il interroge qu'un meurtre a eu lieu dans la maison des Moore. La rumeur se répand vite dans la petite ville. En conséquence, durant son absence et malgré la présence de Ross qui tente d'empêcher l'intrusion, la maison est investie par une centaine de personnes au moins qui viennent voir l'endroit où a eu lieu la tuerie. Les habitants de Villisca s'engouffrent chez les Moore, les enfants courent de pièce en pièce pour observer les cadavres et on vole des objets. La scène de crime est durement contaminée, ce qui rend le travail de la police, déjà peu habitué à ce type d'affaires, encore plus difficile. Rien n'est épargné et même la hache qui a servi au crime est manipulée par n'importe qui. Il faut attendre midi pour que la garde nationale arrive sur place et repousse les badauds. La scène de crime est enfin sécurisée et tout le monde rentre chez soi, mais le mal est fait. Le docteur J. Clark Cooper arrive accompagné du marshal Horton peu après midi. En conclusion, 8 personnes ont été tuées sans qu'aucun témoin n'ait pu voir le moindre suspect ou n'ait pu entendre le moindre bruit. Toutes les victimes ont apparemment été tuées dans leur sommeil, à l'exception de Lina qui a, semble-t-il, tenté de se protéger puisqu'elle porte des blessures de défense. Les enquêteurs ne constatent pas de vol. Les poches du pantalon de Josiah, qui a été accroché au montant du lit, contiennent toujours son chéquier, de l'argent liquide et des clés. L'énorme entaille dans le plafond, juste au-dessus du lit des parents, et qui a probablement été causée par la hache, donne une idée de la violence qui s'est déchaînée ce soir-là, et confirme que la hache a été utilisée côté contendant par le tueur uniquement pour tuer Josiah, comme l'attestent ses blessures. Les autres victimes ont eu un peu plus de chance et ont été tuées par le côté tranchant de la hache avec moins d'acharnement, un coup ayant parfois suffi à tuer. Les miroirs ont été recouverts de vêtements empruntés à la famille. Les visages des victimes aussi ont été recouverts par des vêtements ou du linge de maison prélevés sur place et tous les rideaux ont été tirés. Des cigarettes consumées ont été retrouvées, ainsi que des traces de chaussures ensanglantées. De la nourriture est aussi retrouvée sur la table de la cuisine. Le meurtrier s'était visiblement préparé à manger avant de quitter la maison par la porte d'entrée. La porte a été verrouillée et le tueur est probablement parti avec les clés. Des indices laissent penser que le tueur a d'abord tué les parents, puis le reste de la famille. Il est alors revenu dans la chambre des parents pour s'acharner sur leur cadavre et plus particulièrement celui de Josiah. Son crâne a explosé sous l'impact de nombreux coups. On suppose qu'il en a reçu entre 20 et 30 et des morceaux de cervelle ont jailli sur le dessus et la tête du lit. Lina Stillinger est retrouvée quant à elle en bas du matelas de son lit, sans ses sous-vêtements qui ont été retrouvés sous le lit et avec sa chemise de nuit remontée au-dessus du nombril. Du sang est retrouvé à l'intérieur de ses cuisses, juste au-dessus du genou gauche. Son corps a été volontairement disposé de manière obscène et la lampe à pétrole, retrouvée au pied du lit, suggère que le tueur s'en est servi pour observer la fillette post-mortem. Aucune agression sexuelle n'a été constatée, mais la médecine légale de l'époque étant ce qu'elle est, le doute est permis. Quant aux deux livres de Bacon, on théorise sur son emploi et certains experts pensent que le tueur s'en serait servi pour se masturber. Selon la reconstitution, on suppose que le meurtrier serait entré par une fenêtre du premier étage dont il aurait enlevé la moustiquaire. Une autre théorie dit qu'il se serait introduit dans la maison pendant l'absence des Moore et les aurait attendus cachés dans le grenier, fumant cigarette sur cigarette, armé de la propre hache de Josiah Moore, empruntée dans le hangar à charbon de la propriété. Pour expliquer la discrétion des meurtres, les enquêteurs ont trois théories. La première part du principe que le tueur a probablement drogué la nourriture des victimes pour qu'aucune ne se réveille durant le crime. Le médecin légiste ne retrouve pourtant aucune trace de chloroforme ou d'une drogue similaire dans l'organisme des victimes. Il est cependant possible que des drogues indétectables pour les tests de l'époque aient été utilisées et cette théorie n'est donc pas facile à écarter. La deuxième théorie établit que le tueur aurait d'abord assommé les habitants de la maison à l'aide d'un sac lesté de sable, puis qu'il aurait fait le tour de la maison pour achever tout le monde. Enfin, dans la troisième théorie, la plus populaire à vrai dire, on suppose qu'il a fait le tour du pavillon portant un seul coup fatal à chacun des membres de la maison, puis qu'il serait revenu s'acharner sur chaque victime par la suite, et plus particulièrement sur le père, Josiah, qui est proprement méconnaissable lorsqu'on le retrouve. Les enquêteurs pensent que le tueur a fini sa boucherie par les sœurs Stillinger, qu'il a ensuite pris le temps de nettoyer la hache, de se laver les mains dans la cuisine, puis de manger un morceau. Il aurait ensuite quitté les lieux aux petites heures du matin, après avoir pris soin de fermer la porte à clé avec un double de la famille qu'il aurait emmené avec lui. Ces conclusions s'imposent dans l'après-midi, après que les enquêteurs aient passé quelques heures dans la maison. Ils estiment que le tueur n'a pas pu aller bien loin et envoie un télégramme à Elmer Nofsinger, un éleveur de chiens policier qui vit au Nebraska. On lui demande de mettre à la disposition des policiers de Villisca deux de ses meilleurs limiers. Nofsinger s'exécute et les deux chiens arrivent par le Chicago Express de 18h. Ils sont immédiatement mis à contribution et une fois qu'on leur fait sentir la hache, ils se mettent immédiatement en piste. Leur flair les amène jusqu'au bras de la rivière Nodaway qui court à l'ouest du domicile des Moore et après quelques minutes d'intense recherche, on retrouve un mouchoir ensanglanté. La joie est cependant de courte durée dans le camp des policiers puisque c'est ici que les limiers perdent la trace du tueur. Devenus inutiles, on cesse rapidement les utiliser pour les renvoyer au Nebraska. Le soir même, à minuit, le coroner qui avait observé les corps au domicile toute la journée autorise les pompes funèbres à transporter les victimes. La morgue locale est en comble, on libère de la place à la caserne des pompiers de Villisca pour y mettre les corps dans l'attente de leur enterrement. Les enquêteurs ont la charge de trouver dans quelles circonstances la famille Moore a été tuée et surtout pourquoi les pauvres sœurs Stillinger se sont retrouvées chez eux le soir du drame. Leur emploi du temps de la veille est dressé. Tôt le dimanche matin, Lena et Ina quittent le domicile de leurs parents Joseph et Sarah Stillinger pour aller à l'église. Elles avaient prévu de manger chez leur grand-mère après le service du matin, mais elles rencontrent Catherine, la fille des Moore, et décident plutôt de passer la journée chez les Moore pour jouer dans leur jardin. Ce soir-là, à 20h, la famille doit se rendre à l'église presbytérienne pour participer à une fête et à un spectacle donné à l'occasion de la Children's Day Programme, un événement qui a lieu tous les ans et qui clôt l'année scolaire. Sarah Moore, la matriarche, a activement participé à l'organisation de cet événement et très naturellement sa famille et elle-même y sont conviées. Les filles Stillinger, qui sont déjà là, les accompagnent et prévoient de rejoindre le domicile de leur grand-mère juste après pour y passer la nuit. La famille arrive sur place autour de 20h. La fête est un succès et la soirée prend fin vers 21h, mais la famille Moore, qui est très bien intégrée dans le quartier, passe un moment à discuter avec les autres membres de la communauté. Il est finalement 21h30 et la nuit est déjà tombée lorsque la famille décide de rentrer. Plus tôt dans la semaine, le conseil municipal de Villisca, pour marquer son mécontentement, a décidé d'interrompre le paiement des factures d'électricité au prestataire qui fournit les éclairages publics. En conséquence, la ville est plongée dans le noir et les Moore décident de ne pas laisser les petites Stillinger rentrer seules dans l'obscurité. Sarah convie les jeunes filles chez elles. Elles acceptent et à 21h45, tout le monde est arrivé chez les Moore. Sarah appelle les Stillinger pour les prévenir de cet imprévu, mais les parents Stillinger sont de sortie et c'est donc la grande sœur de Lena et Ina, Blanche, qui prend l'appel. Elle promet de transmettre le message et ainsi, tout le monde se couche chez les Moore. Les petites Stillinger dans la chambre bleue du rez-de-chaussée et le reste de la famille dans leurs chambres respectives. Aucun d'entre eux ne survit à cette nuit. L'enterrement a lieu quelques jours plus tard, le jeudi 13 juin 1912. La cérémonie rassemble presque 7000 personnes. On oublie l'épisode de curiosité morbide qui a ponctué la découverte des corps, et désormais c'est tout le comté qui se recueille dans la tristesse et l'incompréhension. L'église ne pouvant accueillir la foule, la cérémonie a lieu dans un grand parc situé près du centre-ville. Les corps sont trop abîmés, alors les cercueils resteront fermés, épargnant ainsi la sensibilité des spectateurs et spectatrices durant tout le sermon du révérend Ewing. Enfin, les corps sont amenés au cimetière lors d'une énorme procession de 400 mètres. Discrètement et conjointement à la cérémonie, une petite équipe désignée préalablement a sorti les matelas ensanglantés de la maison, les a rassemblés, puis brûlés. La ville étant superstitieuse, la maison a ensuite subi un rituel de purification par fumigation. Dans le mois qui suit l'octuple meurtre, plus de 100 personnes sont interrogées sans succès. Les entretiens ont été reproduits et représentent 5000 pages de procès-verbaux que l'on peut désormais lire pourvu que l'on se rende jusqu'à la bibliothèque Gretel de la ville de Wrentham dans l'Iowa. Passé le choc et la sidération initiale, la paranoïa s'installe et des groupes de vigilance sont créés pour protéger les habitants de la ville. Très vite, des rumeurs se mettent à enfler. On raconte que le meurtre aurait été perpétré par l'un des fous évadé de l'hôpital psychiatrique de Clarinda, situé à 25 km au sud de Villisca. On accuse aussi des bandes de sans-abri afro-américains qui rôderaient dans le coin, et un journal de Bedford déclare même posséder des informations sur une secte religieuse basée à Denver qui pratiquerait des sacrifices humains. On attribue à cette secte nombre de meurtres à la hache ayant eu lieu avant celui des Moore. La semaine précédant le drame de Villisca, par exemple, Rollin et Anna Hudson, un couple de Paola, une ville du Texas, auraient été tués dans des circonstances étrangement similaires. D'autres meurtres semblables auraient aussi été commis le long du chemin de fer du Pacifique Sud, dont le trajet passe par Villisca. L'hypothèse d'un tueur en série émerge à ce moment et plonge le comté dans l'hystérie. Les meurtres en question auraient aussi été commis à l'aide du côté contendant d'une hache et les miroirs et fenêtres des maisons visées auraient aussi été recouverts par du linge de maison et des vêtements appartenant aux victimes. Les meurtres à la hache ne sont pas rares à l'époque. N'importe quel foyer se doit d'en posséder une, mais l'obturation des miroirs et des fenêtres interroge. Le tueur est-il superstitieux ou n'aime-t-il tout simplement pas son reflet ? La question est toujours sans réponse. L'émotion en ville et dans les états voisins est immense. L'état d'Iowa propose $500 pour la capture du tueur. Cette somme est complétée de $500 par le comté de Montgomery et les habitants de Villisca font don de $700 supplémentaires. Le reste de la prime, qui représente au total $2000, est versé par la John Deere Implements Company, la société qui employait Josiah comme gérant d'une de ses franchises. Sans résultat évidemment. Je vais vous parler des suspects dans quelques instants, cela dit, deux noms ressortent du lot et à ma connaissance, ce sont les deux seuls suspects sérieux de ce drame. Le révérend itinérant George Kelly et Frank Jones, une autre pente de la ville, sont plus ou moins suspectés au même moment. Des camps se forment dans la ville qui défendent l'un ou l'autre des suspects, en grande partie selon leur appartenance religieuse. Les presbytériens derrière Kelly et les protestants derrière Jones, ce qui exacerbe les tensions en ville.
Do
L'enquête patine depuis 2 ans lorsqu'en avril 1914, James Newland Wilkerson, un détective de l'agence privée de détective Burns, débarque à Villisca. Il est passionné par le meurtre des Moore et convainc Ross, le frère de Josiah Moore, de s'offrir ses services. Le prix de Wilkerson n'est pas dans les moyens du petit pharmacien de ville, mais l'affaire a tant marqué les esprits que les habitants les plus fortunés de Villisca et la ville elle-même unissent leurs moyens pour le payer. Une fois embauché, Wilkerson ne perd pas de temps, il a bien étudié le dossier et a déjà un suspect en tête. Tous les soupçons du détective se tournent vers Frank Jones, qui est l'ancien patron de Josiah Moore. Directeur de banque, membre de la Chambre des représentants et sénateur de l'État de l'Iowa, c'est un autodidacte besogneux qui a travaillé dur et longtemps pour obtenir la gérance de la quincaillerie franchisée John Deere qui embauchait Josiah Moore. Le travail de Josiah est alors très apprécié par Frank et ses collègues, mais des querelles et l'ambition personnelle du père de famille finissent par le pousser à la démission. Josiah veut se mettre à son propre compte. Il ouvre sa quincaillerie à quelques rues de celle de son ancien patron, récupère la franchise John Deere et se met à concurrencer Frank Jones avec un succès irritant. Leur relation se tend. Une rumeur se met aussi à enfler en ville qui dit que Josiah entretiendrait une relation adultère avec la belle-fille de Frank, Donna Bentley Jones. Rumeur qui dégrade considérablement l'ambiance entre les deux entrepreneurs et qui constitue aux yeux du détective un mobile tout à fait sérieux. Une des théories de Wilkerson à propos du meurtre veut que Frank ait embauché un tueur à gages cocaïnomane, William Blackie Mansfield, pour éliminer Josiah. 2 ans avant le meurtre de Villisca, William avait été accusé d'avoir tué sa femme, son fils, son père et sa belle-mère avec une hache. On le soupçonne aussi d'avoir été l'auteur du meurtre à la hache commis à Paola dans le Kansas, 2 semaines avant le drame de Villisca, où il s'avère que les miroirs et les fenêtres du logement des victimes avaient aussi été recouverts par leurs vêtements et du linge de maison. James Newland Wilkerson veut un coupable et le profil de Mansfield lui convient. Il tentera d'obtenir des aveux par la force et on raconte qu'il a entre autres pendu Mansfield par les chevilles au sommet d'un pont qui traverse le Missouri pour le faire parler. Dans l'affaire de Vidiska, Mansfield n'a été innocenté que parce qu'il a pu produire des fiches de paye qui le localisent dans l'Illinois au moment des meurtres. William Blackie Mansfield a fini par porter plainte contre le détective et a reçu la somme de $2,225 en compensation. Frank Jones, quant à lui, le supposé commanditaire, a poursuivi Wilkerson en justice pour diffamation dans un procès qu'il finit par perdre. Sa réputation se détériore et en juin 1916, alors qu'il se présente à nouveau aux élections primaires républicaines, plusieurs citoyens de Vidiska reçoivent un courrier anonyme qui l'accuse formellement d'avoir commandité le meurtre. Il perd alors sa nomination et finit par faire faillite. Persécuté par Wilkerson durant 3 ans, et rattrapé par les soupçons des habitants de Vidiska. Le plus terrible probablement dans cette histoire, c'est qu'il n'a jamais été jugé pour ce meurtre, les accusations n'ayant jamais dépassé le stade de la rumeur au sein de la communauté de Vidiska. Autre suspect que j'aborderai rapidement, Henry Moore est un tueur en série qui n'a aucun lien avec la famille Moore. Quelques mois après le massacre de Vidiska, Henry Moore tue sa mère et sa grand-mère à la hache à Columbia dans le Missouri. La police le suspecte d'être l'auteur de la tuerie de Vidiska et d'une vingtaine d'autres cas de meurtre à la hache à travers les États-Unis. Il n'a jamais été jugé pour le meurtre de Vidiska, mais passera 36 ans en prison pour le meurtre de sa mère et de sa grand-mère. Andy Sawyer, un autre suspect vite écarté dans cette affaire, est un travailleur itinérant qui est arrivé un beau matin par le train de Vidiska peu de temps après les meurtres et qui a été immédiatement embauché sur des chantiers de la ville. C'est son comportement qui attire l'attention des forces de police. Ses collègues racontent qu'à la suite des meurtres, il s'est montré fasciné par les articles des journaux qui relataient l'affaire. Ses collègues disent aussi que son comportement est devenu suspect. Il ne parle plus que du drame de Vidiska, aurait confié à son contremaître qu'il était près des lieux du meurtre au moment où ils étaient commis, et on rapporte qu'il dormirait entièrement habillé, serrant contre lui sa hache de chantier. Une enquête rapide démontre qu'il n'a pas pu commettre l'octuple meurtre dans la mesure où le soir du drame, il a été arrêté pour vagabondage à Osceola, une ville qui se trouve à 112 km de là. Finalement, le suspect le plus sérieux à ce jour, bien que l'affaire n'ait au final jamais été résolue, est George Kelly. George Kelly est né le 19 octobre 1978 à Erith, dans la banlieue de Londres. Il est le fils d'un prédicateur anglais. Lui et son épouse arrivent à New York en 1904 en provenance d'Angleterre. C'est un prédicateur itinérant qui parcourt les routes des États-Unis pour prêcher. On lui connaît des déviances sexuelles et on lui diagnostiquera à la suite du procès une schizophrénie paranoïde. Le soir du meurtre, George Kelly est lui aussi présent à l'église presbytérienne qui accueille la fête organisée pour les enfants par Sarah Moore. Il quitte Vidiska dans la précipitation le lendemain matin par le train de 5h19, le tout premier train de la journée qui part pour le Nebraska. Dans les jours qui suivent son départ, il s'intéresse de près à l'affaire Vidiska au point de développer une obsession. Il n'hésite pas à envoyer de longues lettres aux forces de police et à la famille des Moore où il s'enquiert des avancements de l'enquête et essaie de soutirer à ses interlocuteurs des éléments inédits liés à l'affaire. Il finit même par revenir en ville 2 semaines après le drame et profite de l'enquête pour se mêler aux policiers qui continuent d'inspecter la maison des Moore. Un agent de police, Tom Hollery, qui reçoit la plupart des courriers de Kelly, trouve son comportement suspect et l'interroge. Le révérend se fait passer pour un témoin et affirme que le soir du meurtre, il a distinctement entendu le bruit de la hache qui s'abattait sur les victimes. Il affirme aussi que c'est un couple qui passait un peu trop près de la maison qui a dérangé le tueur et qu'il l'a aperçu qu'il s'enfuyait par la porte de derrière en direction du nord. Son témoignage tardif surprend les policiers qui enquêtent sur le personnage du révérend sans résultat. C'est au cours de l'année 1914 que des éléments vont éveiller définitivement les soupçons des policiers. George Kelly, qui est devenu sténographe, fait paraître une petite annonce dans un journal de l'époque. Il cherche alors une secrétaire pour le seconder. La première femme à l'avoir contacté raconte plus tard aux enquêteurs lors du dépôt de sa plainte que George Kelly lui aurait écrit pour lui indiquer qu'elle aurait le poste si elle acceptait de travailler pour lui entièrement nue. N'ayant pas reçu de réponse, il se met à harceler la jeune femme. D'autres témoignages et plaintes viennent alors l'accabler. Une jeune femme raconte que Kelly l'aurait abordé dans la rue, se présentant comme un peintre pour lui demander de poser nue pour lui. Dans le même ordre d'idées, des témoignages rapportent qu'on aurait surpris George Kelly regardant par les fenêtres de différentes maisons de Vidiska dans les heures qui ont précédé le drame. Au cours de l'enquête, la police apprend que le matin du meurtre, dans le train qui emmenait Kelly hors de la ville, des témoins l'auraient entendu parler d'un meurtre à la hache alors que le drame de Vidiska n'avait pas encore été découvert. Tous ces éléments entraînent sa mise en examen pour meurtre le 30 août 1917. Il subit une nuit éprouvante d'interrogatoires musclés. On suppose qu'il est violenté par le procureur général Havner, des policiers d'État, ainsi que le shérif d'Harrison, et qu'entre les longs interrogatoires brutaux qu'on lui fait subir, il est remis en geôle ponctuellement pour être manipulé par des policiers qui se font passer pour des co-détenus. Au terme de cette nuit, Kelly finit par signer des aveux. Il est 7h du matin et nous sommes le 31 août 1917. Selon sa déposition, il déclare être arrivé sur Vidiska la nuit précédant le meurtre de la famille Moore et avoir été accueilli par le révérend Ewing et son épouse de l'église presbytérienne de Vidiska. Selon sa déposition, il déclare être arrivé sur Vidiska la nuit précédant le meurtre de la famille Moore et avoir été accueilli par le révérend Ewing et son épouse de l'église presbytérienne de Vidiska. Le dimanche soir, il assiste à la cérémonie de la Children's Day Program où il croise la famille Moore, puis passe la soirée en compagnie du couple Ewing. Le couple aime passer ses nuits à la Belle Étoile lorsque le temps le permet. Ainsi, lorsque la soirée s'achève, ils proposent à Kelly d'utiliser leur chambre, tandis qu'ils dormiront dans une tente dressée dans leur jardin. Kelly raconte que malgré son sommeil, il a du mal à dormir et que très vite, il est gêné par un genre de vombrissement qui résonne dans sa tête. Il décide de sortir prendre l'air et arrive presque par hasard devant l'église presbytérienne des Ewing. Alors qu'il marmonne un sermon, il dit entendre une voix dans sa tête qui le pousse à tuer. La voix, qu'il identifie comme celle de Dieu lui-même, lui désigne une ombre mouvante et lui demande de la suivre. Ce faisant, il arrive à l'arrière de la maison des Moore. La voix impérieuse lui intime de tuer tous les membres de la famille Moore. Il trouve une hache, s'introduit dans la maison qui n'a pas été fermée à clé, monte les escaliers, passe devant les parents et se dirige droit vers la chambre des enfants. La voix de Dieu lui demande de laisser les enfants venir à lui et Kelly, en transe, s'exécute froidement. Puis il tue les parents avec tant d'acharnement qu'il est littéralement épuisé. Il cherche alors un endroit au rez-de-chaussée où il pourrait s'allonger quelques instants. C'est par hasard qu'il tombe sur les filles Stillinger. La voix de Dieu se manifeste à nouveau et exige de recevoir les fillettes en sacrifice. Ce seront, selon Kelly, les dernières victimes. Toujours selon lui, une fois sa tâche accomplie, il retourne chez les Ewing pour se reposer jusqu'au départ de son train à 5h19 qui le ramènera au Nebraska auprès de son épouse. Son témoignage contredit la reconstitution des experts sur certains points, de même qu'il ne mentionne pas certains des éléments qui interrogent les enquêteurs, comme la question des deux livres de Bacon retrouvés au sol, les miroirs obturés ou encore la position obscène de la petite Lina. James Wilkerson n'est pas convaincu par ses aveux. Il pense que le procureur général Havner a poussé Kelly aux aveux pour disculper Frank Jones, qui est un ami, mais l'opinion veut un coupable. Très tôt donc, dans la nuit du 4 septembre 1917, Kelly est transféré à la prison du comté de Harrison, dans la ville de Logan, dans l'attente de son procès qui aura lieu quelques heures plus tard. À 10h10, c'est un Kelly tout souriant qui est amené au tribunal. Les avocats de Kelly laissent entendre lors du début du procès que ses aveux ont été obtenus par la force. Il présente en effet des blessures qui suggèrent un récent passage à tabac. Cette question occupe une bonne partie des débats de la journée. Les avocats de Kelly ne sont pas dupes et chargent le procureur général. À l'issue de cette première séance où Kelly est revenu sur ses aveux en se déclarant non coupable, le procureur général Havner est abordé par la presse et fait des annonces en grande pompe, suggérant des témoignages décisifs à venir. Son emphase et les rebondissements qui s'annoncent réalimente du même coup l'intérêt du public pour un drame que la Première Guerre mondiale avait presque fait oublier. Le lendemain, la séance s'ouvre à nouveau et le procès se poursuit. Kelly trouve un allié surprenant en la personne de Wilkerson, qui est toujours convaincu de la culpabilité de Frank Jones et qui compte bien influencer le jury en faveur de la libération de Kelly. Il a créé pour cela une association qui défend les intérêts de Kelly et qui paye les frais de son procès. Son pouvoir de persuasion est tel qu'il peut compter parmi les membres les plus influents de son association le propre père des filles Stillinger. Le procès est une farce. Wilkerson et le procureur général sont tous deux soupçonnés d'orienter la décision des jurés qui ont été sélectionnés. L'un et l'autre sont accusés d'ingérence. On pense que le procureur général Havner, qui est un ami proche de Frank Jones, use de son pouvoir pour enfoncer Kelly. Le procureur général est retoqué et on procède à la sélection d'un groupe de jurés qu'on espère libre de toute influence. Le procès continue et les charges contre Kelly s'accumulent. Le fait qu'il ait parlé du meurtre avant sa découverte dans le train qui l'emmenait loin de Villisca, le fait qu'il se soit vanté du meurtre auprès d'un co-détenu lors d'un court séjour qu'il aurait fait en prison entre 2014 et 2015, les aveux faits sous serment le soir de son interrogatoire, et enfin le témoignage d'une blanchisseuse qui affirme avoir lavé une chemise de Kelly pleine de sang. Les preuves ne sont cependant pas suffisantes et les témoins ne sont pas toujours dignes de confiance. Ainsi, le 28 septembre 1917, contre toute attente, les jurés sont incapables de se prononcer formellement en faveur de la culpabilité de Kelly. Après avoir voté 22 fois, 11 jurés se sont prononcés en faveur de l'acquittement du suspect. Ces troubles mentaux qui décrédibilisent ses aveux et des blessures sur son visage qui suggèrent qu'ils ont été obtenus de manière brutale jouent en sa faveur. À l'issue des délibérations, il est finalement jugé non coupable pour le meurtre de la famille Moore. Le 26 novembre 1917, un deuxième jury est convoqué qui confirme l'acquittement de Kelly pour défaut de preuve. Il s'établit ensuite à New York et replonge dans l'anonymat. Il meurt le 6 avril 1959 à l'hôpital Central Islip de New York et est enterré au cimetière de Woodlawn aux côtés de son épouse décédée 11 ans plus tôt. Kelly était le suspect le plus important de cette affaire. Son acquittement et la Première Guerre mondiale détournent définitivement l'attention du public. L'affaire a été classée et il s'agit d'un des cold cases les plus célèbres de l'Iowa. On ne saura jamais avec certitude qui a tué ces 8 personnes dans la nuit du 10 juin 1917. Je suis aussi particulièrement touché par le destin des deux petites Stillinger que le hasard a mis sur la route du meurtrier. Cette histoire est aussi fascinante par les questions qu'elle pose. Quel était le mobile du meurtrier? Comment s'y est-il pris pour tuer 8 personnes à la hache sans réveiller aucun des membres de la maison? Pourquoi Josiah a subi un tel déchaînement de violence que son visage a été rendu méconnaissable? Et enfin, que révèle du tueur sa volonté de cacher la tête de ses victimes et de cacher les miroirs? Autant de questions qui ne trouveront jamais de réponse, malgré l'acharnement de certains enquêteurs, journalistes et essayistes. Ne reste de cette histoire qu'une maison qui sert d'attraction à quelques centaines de personnes par an qui viennent se faire peur avec des fantômes alors que chaque année aux États-Unis, l'être humain commet des centaines de meurtres dans des circonstances au moins aussi terribles que celles de Villisca. Enfin, faites-moi plaisir. Même si vous habitez dans l'endroit le plus idyllique du monde, même si vos voisins et voisines ont l'air de gens charmants, avant d'aller vous glisser sous vos draps, vérifiez que vous avez bien fermé votre porte et surtout, n'achetez jamais de hache. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était Kurt Pisken pour Obscurum.